vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Il y a de plus en plus de personnes en situation d'itinérance dans nos rues avec le manque de logement, le manque d'emploi, tout comme de nombreux de problèmes de santé et de consommation. Une solution serait de bonifier l'offre des médecins de rue, avançait le président du comité exécutif de Montréal, Claude Pinard. Cette médecine sociale existe déjà, portée par des organismes communautaires et des médecins. Le milieu communautaire manque surtout de financement et de reconnaissance. Les plus pauvres et sans logis, c'est aussi un portrait changeant avec une population vieillissante, plus d'aînés donc, et aussi plus de femmes, des personnes issues des Premières Nations et aussi plus de jeunes issus de la DPJ. Chaque décès de personnes sans abri nous ramène à la même question : comment mieux prendre soin de notre monde dans la rue ? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous intéressons aujourd'hui aux soins à offrir aux personnes en situation d'itinérance, des soins physiques, psychologiques et de prévention, alors qu'un autre drame s'est produit récemment et que deux personnes sont décédées. J'en parle avec nos invités, j'en parle avec Mylène Demarbre, directrice clinique santé mentale et psychologue chez Médecins du Monde Canada. Bonjour.
Bonjour.
J'en parle avec Yves Robé-Laverny, responsable clinique de la Maison Benoît Labre. Bonjour.
Bonjour.
Et avec David Ries, sociologue et organisateur communautaire au Centre de recherche et d'activités culturelles et communautaires pour les diversités, philosophe éthicien de formation. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Donc il y a de plus en plus de monde qui vit dans la rue. Certaines statistiques parlent d'une hausse de 44% entre 2018 et 2022 en raison d'un recul de l'accessibilité des logements abordables, de l'augmentation des troubles de santé mentale, des pertes d'emploi liées à la pandémie. Le visage des plus pauvres d'entre nous actuellement sans abri change aussi de plus en plus d'aînés, de femmes aussi. Alors comment adapter les soins et les espaces publics à cette réalité ? Je vais peut-être commencer avec vous, Monsieur Robé-Laverny. Mmh. Quelles sont les difficultés d'accès aux soins de santé pour les personnes en situation d'itinérance?
Les difficultés d'accès, c'est un peu les mêmes que pour nous. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire à la liste pour pouvoir avoir accès à un médecin de santé, à un médecin de famille. C'est pas toujours évident, même pour nous. Donc, on peut imaginer pour quelqu'un dans la rue, c'est très compliqué. Le SUS essaie de mettre en place des équipes pour itinérance pour pouvoir pallier à ce problème. Mais il faut accéder aux personnes qui sont dans la rue. Puis ça, c'est une autre affaire.
Ouais. Quand elles ont besoin de soins, comment elles font?
Ben, chez nous, par exemple, on a la clinique DC+, qui est une clinique, c'est un service du CLSC. On a une infirmière qui vient toutes les semaines et puis qui se met à leur disposition. Puis on essaie de mettre en place en ce moment une clinique bénévole avec des médecins qui seraient volontaires pour travailler avec nous.
Oui, la maison Benoît Labre est dans Saint-Henri.
La maison Benoît Labre est à Saint-Henri, juste à côté du marché Atwater. Les gens la connaissent bien, je pense, dans le quartier. Oui.
Madame Demarbre, quand on parle de soins, on pense aux engelures, aux blessures physiques, mais il faut penser aussi à la santé de manière plus globale, n'est-ce pas?
Absolument. Je pense qu'il faut penser de manière plus globale. Ça veut aussi dire se défaire de la pensée que l'accès à la santé, c'est l'accès à un médecin. Mm-hmm. Donc, il y a toutes sortes de formes de soins, il y a toutes sortes de professionnels qui peuvent venir en aide aux personnes en fonction de leurs besoins. Je pense à notamment des psychologues. Souvent, le volet santé mentale est plus négligé, plus absent, ou du moins penser dans une lunette strictement psychiatrique. Donc, oui, à mon avis, oui. Il y a quelque chose de très important à ouvrir ici. Mais aussi, bien entendu, des infirmières, des travailleurs sociaux, des pères aidants aussi. Donc, des personnes qui ont eux-mêmes un savoir expérientiel puis qui peuvent maintenant participer finalement aux soins puis au rétablissement des gens. Puis, en même temps, penser la santé de façon globale, c'est aussi sortir d'une vision très hospitalo-centrée qu'on tend à avoir lorsqu'on réfléchit la santé au Québec. Donc, la santé, ça peut se passer aussi ailleurs qu'à l'hôpital, comme l'exemple.
Oui, surtout
qui vient, d'ici plus qui vient d'être nommé.
Mm-hmm. Mais c'est surtout les portes des organismes, j'ai l'impression, qui sont des fois des portes d'accès vers un soin, quel que soit le soin.
Absolument. C'est ça, hein?
Monsieur Riss, il y a l'itinérance visible, il y a aussi l'itinérance plus cachée. Parlez-nous peut-être des changements observés de la part de la population de les plus pauvres. Ça change, les gens qui sont dans la rue.
Mais c'est sûr que l'itinérance change de visage, comme on l'a dit. Il y a un glissement qu'on peut observer aussi, notamment chez les personnes âgées, plus particulièrement chez les femmes. Donc il y a un glissement de la pauvreté vers l'itinérance. On le voit aussi chez les étudiants, donc dans plusieurs groupes cibles, on va dire, en tout cas un ensemble de personnes en situation de vulnérabilité, où l'itinérance n'est pas nécessairement visible, mais au niveau socio-économique, au niveau des inégalités sociales de santé, on l'observe. Là, on parlait de santé globale, il faut aussi parler de santé préventive. Effectivement, il faut dépasser la vision hospitalo-centriste et avec l'accessibilité aux médecins. Évidemment tous les autres professionnels, mais en même temps tous les services aussi étudiants qui sont débordés, où c'est difficile, et où par exemple on peut retrouver aussi des étudiants qui sont en situation d'immigration, qui sont là pour les études, qui n'ont pas le réflexe d'aller vers ces services. Donc l'itinérance, elle est aussi étudiante, elle est aussi chez les personnes âgées, aînées, c'est un peu difficile actuellement, puisqu'elle est cachée, de la chiffrer, oui, de la documenter et d'y répondre de façon adéquate et plurielle.
Oui, on pourrait penser que c'est caché parce que c'est dans la rue, mais des fois c'est caché sur le canapé d'un de ses amis et c'est non dit. Il y a beaucoup de honte liée à ça aussi. Donc c'est pour ça. Monsieur Robert Laberdi, souvent le système de santé n'est pas très souple. Rappelez-nous pourquoi c'est important de sensibiliser le corps médical aux enjeux de l'itinérance.
Oui, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'a priori dans le système de santé. Moi, je me souviens avoir travaillé dans un centre de crise et qui refusait clairement d'accueillir des personnes en situation d'itinérance parce que ils maîtrisaient pas du tout les enjeux qui étaient en dehors du risque suicidaire. Donc, ces personnes n'avaient pas forcément accès à un centre de crise. Souvent, c'est très catégorisé, c'est-à-dire que on va traiter d'un côté la santé mentale, l'itinérance. D'un autre côté, on va traiter les enjeux de consommation encore d'un autre bord. Donc, c'était un peu l'idée, je crois, avec l'équipe d'ICI Plus, de justement essayer de fédérer un peu tout ça. Okay. Voilà. Mais ça reste très chacun dans son coin. Puis, on a vu des aberrations parfois. On parlait de l'hôpital tout à l'heure, des aberrations de prise en charge sans prendre en compte que la personne était à la rue et ne pouvait pas bénéficier de services à domicile ou ne pouvait pas bénéficier ne serait-ce que d'un changement de vêtements. Donc quand on traite des poux de corps par exemple, ça peut être très très contraignant. Donc, c'était un véritable problème et ça l'est encore aujourd'hui.
Oui, mais c'est surtout aussi des problèmes de santé qui sont multiples en même temps. Je veux dire, on peut avoir des problèmes de consommation, on peut avoir des blessures en même temps, puis aussi peut-être une santé psychologique un peu plus fragile. Donc les trois peuvent coexister finalement. Oui. Donc séparés dans chaque couloir, c'est un petit peu ubuesque, on va dire.
C'est ça, c'est soit l'un soit l'autre. Alors parfois c'est très compliqué. On parlait d'accès, c'est très compliqué d'accéder aux services de santé pour ça, pour les personnes en situation d'itinérance. Oui.
Madame de Marme, parlez-nous peut-être des approches de proximité et peut-être aussi des barrières d'accès au réseau. Là, ça a l'air compliqué d'avoir.
Pour ceux qui ont vu le film Les 12 travaux d'Astérix, un des travaux c'est la maison des fous, donc c'est une métaphore que j'utilise souvent. De bien présenter un peu les enjeux d'accès. Au-delà de la complexité du système et du travail en silo, il y a aussi énormément d'enjeux de stigmatisation. Nous, en fait, il y a plusieurs personnes qui nous rapportent comment elles sont accueillies de façon très rejetante, voire méprisante. Donc, il y a toutes sortes de préjugés que les personnes entretiennent envers les personnes marginalisées et les professionnels de santé peuvent en porter, en fait, consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a ça qui se joue. La sensibilisation, c'est vraiment important. Je pense que les approches de proximité, c'est extrêmement intéressant.
Qu'est-ce que c'est exactement, les approches de proximité?
Je pense que l'essence, c'est aller vers les gens là où ils sont, donc se rendre à eux, en fait, pour déjà enlever un obstacle là, que les personnes doivent traverser. C'est très en vogue, la proximité. Il y a des organismes communautaires qui en font depuis, dont c'est la mission, en fait, que ce soit du travail de rue, du travail de proximité, tout ça. Et là, le réseau aussi tend à avoir envie d'embarquer dans ce mode-là. Une chose que je pense qu'il est à réfléchir, tu sais, dans une concertation qui serait réelle, c'est que des fois, en fait, il y a des nouveaux acteurs qui peut-être reproduisent moins bien ce que d'autres font déjà mieux. Oui. Donc, il y a tout un peu cet enjeu-là, en fait, où est-ce qu'on se retrouve avec plein d'équipes qui offrent des soins primaires de façon un petit peu sporadique, dehors, à l'extérieur. Mais au final, quand on essaie de faire la liaison dans le système, donc si quelqu'un a des besoins de santé plus complexes, eh bien, les portes sont fermées. Alors, finalement, ces équipes-là vont se buter aux mêmes barrières d'accès elles-mêmes. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à réfléchir sur les modèles de proximité. Je pense que ici plus, c'est vraiment très bien. Donc, des présences régulières dans des organismes qui sont déjà fréquentés. Pour moi, ça, c'est un excellent modèle. Parce qu'il y a quelque chose à réfléchir aussi dans la multiplication des acteurs de proximité avec faire attention de ne pas développer des approches un peu intrusives. Donc, toutes sortes de personnes, hein, il y a des idées maintenant de stage, donc des gens qui vont aller passer 6 heures dehors dans le cadre de leur formation, donc qui ne seront pas là de manière stable, qui ne connaissent pas les communautés et qui se promènent, vont peut-être interpeller quelqu'un qui est dans la rue, potentiellement en train de vivre sa vie et qui n'a rien demandé, mais sans offrir un soin, tu sais, de longue durée, donc versus utiliser des ressources que les gens fréquentent, et puis donc auxquels ils peuvent faire appel ou pas. Mais il y a quelque chose de s'offrir sans s'imposer, je pense, à réfléchir au cœur de la proximité.
Oui, tout à fait. Monsieur Risse, il y a aussi le regard qu'on pose sur ces personnes-là, qu'on voit souvent comme inaptes ou dysfonctionnelles socialement. Expliquez-nous.
Disons qu'il y a une fabrique hein, de la dangerosité de l'autre. On le voit notamment avec les personnes en situation d'itinérance, plus particulièrement peut-être actuellement, en tout cas dans le village. Disons que ces personnes sont profilées comme étant des personnes consommatrices, comme étant nécessairement des personnes qui dérangent. Après, j'avais envie de comparer un peu cette vision, et qui est un peu évidemment réductrice, aux personnes aussi vieillissantes. C'est-à-dire que si on ne regarde que les personnes itinérantes comme des personnes, entre guillemets, et je les mets bien, avec des manques, avec des carences, dont on ne reconnaît pas les forces, la grande générosité pour ceux qui sont impliqués comme étant aussi des personnes consommatrices, on a une vision très réductrice en fait de l'être humain, et on laisse, on n'est plus du tout là à égalité de considération avec l'autre. Comment garder, comment maintenir l'envie de regarder l'autre comme son alter ego, le visage de l'autre en situation d'itinérance, moi m'apparaît, je l'ai vu avec le projet Arborescence par exemple, qui est un projet de jeunes ukamiennes qui ont fait des installations tout autour de l'UQAM, dans la rue.
À côté de la grande bibliothèque aussi.
C'est ça, juste en face, et où se posait l'enjeu de la cohésion et du partage de ces espaces et de l'utilisation de ces matériels qui sont des matériaux là où on peut se reposer, un peu comme dans un hamac, etc. Donc là, cette cohésion-là et cet idéal de cohésion et de mixité sociale, il est mis en application, et on voit très bien par la réaction de la population majoritaire qu'elle a du mal à composer avec ce qu'on appelle sur place des populations locales. Si vous voulez organiser par exemple un événement au jardin Émilie Gamelin, au niveau de la sécurité, il faut prévoir un plan et on compose avec la population locale. Alors il y a des catégories aussi cliniques éventuellement, mais en tout cas des catégories qui peuvent être aussi stigmatisantes. Donc il y a plusieurs enjeux au niveau macro et micro qui font en sorte que on a du mal encore à considérer les personnes itinérantes comme des personnes à égalité, en fait, tu vois, dans leur entièreté. Et donc, cette secondarisation-là, moi, m'apparaît disons, problématique, et surtout quand elle est véhiculée par des institutions, qu'il s'agisse de l'autorité, qu'elle soit policière ou autre, de la santé, etc. Donc là, on a un travail de fond à faire aussi, et à regarder, pour regarder en fait ces personnes autrement, plus et autrement, et en parler plus et moins mal, si je puis dire.
Oui, mais on le voit des fois dans le métro aussi de Montréal, où il y a des agents maintenant qui repoussent les personnes de métro en métro, puis finalement, les personnes n'ont plus de place pour se réchauffer, plus d'endroits. On les repousse toujours plus loin parce qu'on ne veut pas les voir, finalement. Donc, M. Robert Laverny, comme gestionnaire clinique à la Maison Benoît Labbe, vous travaillez donc avec des jeunes médecins et avec la clinique d'ici plus, là, pour offrir des soins à vos usagers et usagères. Quel type de soins reçoivent ces personnes-là? C'est quoi les besoins?
Ça va être des soins primaires, beaucoup par rapport à des blessures. Beaucoup, bon, il faut savoir que la consommation, par exemple, par injection, peut causer des infections assez importantes. Il y a aussi le problème des pieds, parce qu'on oublie que les personnes en situation d'itinérance, comme on
beaucoup.
Le dit, marchent beaucoup, souvent en hiver aussi. Donc, on a le problème des pieds bleus. On a aussi... tout ce qui est problème de vue, effectivement, on a
une clinique... Avez-vous le bonhomme à lunettes?
Oui, tout à fait. Et une clinique optométrique qui vient régulièrement et qui a beaucoup de succès. Mais oui, il y a beaucoup de problèmes de santé comme ça, primaires. Mais dès qu'on veut aller un petit peu plus loin, c'est là que ça se complique parce que les personnes ne sont pas toujours disponibles, elles n'ont pas toujours de téléphone. Effectivement, tout à l'heure, Mylène disait qu'il faut vraiment que les médecins aillent au-devant des personnes et puis là où elles se trouvent. Je pense que c'est vraiment la clé pour moi, c'est que les médecins aillent là où les personnes se trouvent. Et puis effectivement, on travaille avec des stagiaires de l'Université de Montréal qui sont en train de recenser les besoins auprès de notre population dans nos différents services avec un questionnaire qui est extrêmement complet et qui va nous permettre en fait d'avoir une base pour pouvoir travailler avec les médecins qui se sont portés volontaires pour nous offrir du temps. Ça va vraiment être intéressant parce qu'on va pouvoir explorer un peu cet aspect-là, puis avoir une bonne connaissance un petit peu des problématiques de santé, en tout cas sur nos services.
Oui, je vais rester un petit peu avec vous. C'est quelque chose qui est porté beaucoup par le communautaire et on sait qu'en ce moment, le communautaire est dans la rue parce que justement, il est sous-financé et pas soutenu du tout. Comment vous travaillez avec tout ce qui est autorité, avec le quartier, avec la ville? Comment vous collaborez ensemble? Parlez-moi un peu de ça. Entre au-delà du communautaire, parce que je suppose que les organismes communautaires se parlent et connaissent et connaissent les références, mais avec la ville, comment ça se passe?
Nous, au niveau des gens du quartier, on a un comité bon voisinage pour essayer vraiment de travailler sur la cohabitation sociale. Oui. C'est pas toujours facile. L'implantation de la Maison Benoît Labbe a été très compliquée et pas toujours accompagnée favorablement, notamment par les médias. Donc ça a été vraiment assez lourd pour nous de nous imposer comme étant une solution et non comme un problème.
Oui.
À l'itinérance, donc ça a été difficile. C'est aussi beaucoup d'éducation à faire. On parlait tout à l'heure avec Monsieur Riz de justement l'image qu'on avait des personnes en situation d'itinérance. Faut évidemment pas oublier notre responsabilité commune.
Oui.
Là-dedans, l'itinérance, c'est le résultat de l'exclusion de notre pacte social, dans un sens. Donc on a tous notre responsabilité à porter là-dedans. Et faut pas effectivement se positionner dans une posture d'exclusion, mais être vraiment dans comment on peut aider au mieux ces personnes-là à réintégrer, à se réaffilier avec nous, à retrouver leur accorder de, parce qu'ils ont déjà une dignité, mais à leur accorder cette dignité au sein de notre communauté.
À pas oublier ça. Mais au point de vue organisme communautaire, de quoi vous avez besoin, vous, pour faire votre travail le mieux?
D'argent.
On
a besoin d'argent pour surtout pour aussi recruter des personnes qui sont compétentes et qui connaissent bien le système et les garder aussi parce que c'est pas facile toujours d'accueillir des travailleurs nouveaux qu'il faut toujours former, donc ça c'est à prendre en considération. Donc c'est vrai que parfois quand on peut mieux les payer, effectivement on peut se permettre d'avoir des personnes avec des meilleurs profils et puis beaucoup plus compétents aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui nous manque, en tout cas par rapport au recrutement. Puis je dirais de façon générale, on perd beaucoup de temps et d'énergie à aller chercher de l'argent partout, à obtenir des désaccords avec les différents gouvernements qui s'arrêtent souvent à leur mandat. Donc, c'est...
Et puis sur des programmes qui ont une date butoir aussi de 3 ans, de 5 ans, puis après l'argent disparaît.
C'est ça, donc c'est toujours beaucoup d'anxiété aussi pour le réseau communautaire. Donc c'est pour ça qu'il est à bout, comme il dit.
Madame de Marve, parlez-nous de l'importance du lien de confiance avec ces personnes-là.
Mais en fait, pour moi, c'est au cœur. L'entrevue se basait justement sur cette idée de stage très bref en médecine. Donc, je pense que c'est intéressant parce que ça sensibilise les professionnels. Donc, ultimement, on peut agir sur la stigmatisation. Mais au niveau des personnes, ça apporte peu, en fait, parce que...
Parce qu'il n'y a
pas de lien, c'est ça. C'est sûr que... Souvent, il y a beaucoup de méfiance des personnes en situation d'itinérance.
Et avec méfiance, raison.
Voilà, c'est ce j'allais dire, qu'on peut te comprendre, en fait, si on connaît les expériences de vie des personnes. Donc, pour moi, on ne peut pas faire l'économie de prendre ce temps-là, en fait. Et c'est pour ça, quand je pense à la proximité, je me dis, il y a des acteurs implantés qui ont cette richesse-là. Donc, des fois, est-ce que ce serait d'aller faire plus de proximité au niveau... des médecins, je pense que oui, c'est intéressant, mais aussi ouvrir les portes quand il y a des besoins plus complexes que la santé primaire, donc pour que les gens qui les connaissent bien puissent les amener. Donc, à mon avis, on ne peut pas soigner quelqu'un qu'on ne connaît pas et on ne peut pas soigner quelqu'un qu'on ne comprend pas, surtout considérant, comme vous l'avez dit, que souvent, en fait, il y a plusieurs difficultés un petit peu en même temps sur différents plans. Mais si on a une perspective de santé globale, bien, on sait que tout est dans tout. Et que ces expériences-là, elles sont interreliées. Donc, prendre le temps de développer ces liens-là, pour moi, c'est la base. En fait, on ne pourra rien accomplir si on n'a pas ça.
Entendu. Monsieur Riss, vous avez des projets au Centre de recherche d'activités culturelles et communautaires pour les diversités, dont des activités qui ressemblent justement au projet Arborescence dans le quartier latin de Montréal, pour améliorer la mixité sociale, le vivre ensemble. Parlez-nous un petit peu de...
Oui, je pourrais vous parler volontiers de différents projets qu'on a déjà réalisés en collaboration avec le Pas de la rue ou la Maison du Père. Alors, avec le Pas de la rue, donc des aînés considérés à 55 ans et plus, donc ça vous dit aussi vieillir dans la rue, ce que ça présuppose. L'idée, en fait, c'est qu'on est parti des aînés qui ont la chance d'être au relais du Pas de la rue, donc ce sont des logements qui sont supervisés, on est en réinsertion sociale par le logement. Et ces personnes, on leur dit, tu dois trouver un emploi, tu dois trouver un logement. Donc, on est dans le tutoi, on est dans des obligations. Et nous, on s'est dit, le plaisir, il est où ? À 55 ans et plus, quand il faut se retrouver un job et puis un toit, c'est compliqué. Donc, on est arrivé avec un petit service très modeste, mais très utile. C'était d'équiper les aînés d'outils pouvant leur servir au quotidien, je m'explique. D'une part, on présuppose que les personnes itinérantes, étant tous les jours presque dehors, devant composer avec les intempéries et tout, connaissent les plantes, pas nécessairement. Les plantes peuvent nous aider. On avait une herboriste, en fait, qui leur donnait l'occasion d'apprécier les vertus des plantes, qu'elles soient antiseptiques ou autres. Donc là, on a parlé de différentes... souffrance ou maladie ou comorbidité que qu'ont ces personnes. Et dans un deuxième temps, après un tour de table pour s'assurer de comment ils allaient, on leur proposait des exercices de tuina, T-U-I-N-A, qui est une technique d'acupression où en fait on peut diminuer ses douleurs. Parce que quand on a été 20 ou 30 ans dans la rue, on parlait des pieds tout à l'heure, mais il y a aussi les genoux et autres. Ouais. Et donc il y a des douleurs
y a
un peu partout. Il y a le stress, il y a l'arthrite, il y a plein de choses. Alors ça, c'est un exemple. Un deuxième, beaucoup plus rapide, partant d'une expo à Marseille sur les violences faites aux femmes, où j'intervenais auprès de médecins et de juristes, j'ai vu une expo avec des troncs de femmes qui étaient découpés et qui étaient personnalisés de façon artistique pour dénoncer les violences. J'ai fait une demande pour avoir des mannequins. J'ai obtenu beaucoup de mannequins pour femmes, mais j'ai obtenu aussi des mannequins pour hommes. J'ai proposé à la Maison du Père de se joindre et de dénoncer les violences d'un point de vue de genre, parce qu'en fait, on entend surtout les violences faites aux femmes actuellement, notamment avec l'affaire Roson, mais on entend peut-être un peu moins parler des violences vécues par les hommes. C'était une belle façon d'entendre les hommes de façon discrète à travers une expo où ils pouvaient être anonymes ou pas et nous parler des violences qu'ils vivent dans la rue.
Ouais. Utiliser l'art-thérapie finalement pour aller plus dans le bien-être ou...
Oui, on n'avait pas cette prétention d'art-thérapie, mais on accompagnait les organismes en leur amenant déjà les mannequins, ce qui était une grosse économie pour les organismes, et puis les ressources humaines, donc des personnes en animation aux arts, qui n'étaient pas des art-thérapeutes, mais ça faisait du bien. Et on a vu des femmes à la maison Donc à la Maison du Père, on a vu les hommes évidemment enjoindre le mouvement, mais par exemple à la rue des femmes, il y a des femmes qui ont conservé des mannequins pendant plus d'un an, à tout perler et à mettre que des bouches qui étaient découpées de catalogues, des bouches de femmes. Donc c'est un projet qui était très très structurant. Vous savez, les personnes itinérantes, on ne sait jamais si on va les revoir le lendemain, vivantes ou pas, puis c'est pas du catastrophisme, là, c'est une réalité. Et quand on voit que les arts, le pouvoir des arts permet de restructurer des vies en donnant une appétence à la vie, un goût à la vie, et puis de reprendre des activités régulières, ben voilà, il y a des façons très simples, très solidaires, d'aider des organismes avec un service en plus. Eux, ils ont juste à faire bénéficier le service à leurs membres. Donc c'est, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait. Entendu. Juste oser en créativité.
Entendu. Madame de Marp, j'ai oublié de vous demander, qu'est-ce que vous faites, Médecins du Monde, concrètement, auprès de ces personnes-là?
Bien, Médecins du Monde, on offre des soins de santé, en fait, aux populations pour qui le droit à la santé n'est pas respecté pour toutes sortes de raisons. Donc, à Montréal, ça implique des personnes en situation d'itinérance, des personnes qui consomment, qui pratiquent le travail du sexe, et aussi des personnes migrantes à statut précaire, donc qui n'ont pas accès à la santé en raison de leur statut migratoire. On fonctionne beaucoup avec des approches de proximité, notamment. On a aussi une clinique dans nos bureaux, mais on a une clinique mobile, donc un camion de soins qui se promène à différents endroits de la rue, dans la rue, de la ville. On a des navigateurs, puis on est en équipe multidisciplinaire. Donc, des infirmières praticiennes spécialisées, des travailleurs sociaux, des psychologues, des pères aidants, beaucoup, des navigateurs autochtones. Alors, on essaie de couvrir l'ensemble du territoire avec une diversité d'acteurs.
Entendu. Je vais terminer avec vous, M. Robert Laverny. Comment on facilite l'implication ou la sensibilisation citoyenne? En d'autres mots, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qui sommes justement à l'écoute?
Ben, on essaie de leur faire changer de regard. On peut passer évidemment par les médias ou par toutes sortes de supports, comme des expositions, par exemple. Mais c'est vraiment important de sensibiliser les gens sur, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur leur regard sur l'itinérance. Une personne ne naît pas itinérante et elle ne meurt pas itinérante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne dit plus personne itinérante ou itinérant, on dit en situation, pour bien replacer le fait que c'est une situation qui est censée être temporaire. C'est vraiment important d'éduquer les gens, puis de les responsabiliser par rapport à ça, comme je disais tout à l'heure. C'est l'échec d'une politique, c'est l'échec d'une société, l'itinérance. Donc plus il y en a, plus ça veut dire que les gens pour qui vous votez sont en échec. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est la bonne mesure de notre, comme je disais tout à l'heure, de notre pacte social. Ouais.
Entendu. Donc on était en compagnie d'Yves Robet Laverny, responsable clinique de la maison Benoît Labre, de Mylène Demarbre, directrice clinique santé mentale et psychologue chez Médecins du Monde Canada, et de David Riss, sociologue et organisateur communautaire au Centre de recherche et d'activités culturelles et communautaires pour les diversités. On mettra tous les liens sur la page. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, comme toujours, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.